Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans ce nouvel épisode d'En Colloque, nous allons faire la connaissance d'un personnage de l'histoire française haut en couleur, la féministe Hubertine Auclert. Née dans l'Allier en 1848, elle est issue d'une famille aisée, à l'esprit fermement républicain. Arrivée à Paris, elle lutte avec Léon Richet et Marion Delorme pour faire modifier le code Napoléon qui avait fait de la femme une mineure et une personne soumise à son mari. Secrétaire du journal L'Avenir des Femmes, ce travail l'a conduit à étudier le rôle des femmes dans les révolutions et plus tard, en 1881, elle fonde son propre journal La Citoyenne, un titre qui en dit long car en effet, les femmes seront reconnues comme citoyennes le jour où elles auront le droit de vote et le droit de siéger. Révolutionnaire et moderne dans ses idées, Hubertine Auclert propose que le mari donne la moitié de son salaire à sa femme, elle préconise le contrat de mariage avec séparation des biens et le versement d'une retraite pour les ménagères qui, à ses yeux, sont autant utiles que les sénateurs. Nous vous proposons de faire la connaissance de cette forte tête bourbonnaise en retransmettant une conférence qui lui était dédiée en septembre 2006 à Moulins-sur-Allier. Vous entendrez l'intervention de Jean Houba, ancien inspecteur général, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques sur les coups d'éclat d'Hubertine Auclert. Mais avant, campons le personnage et abordons ses origines avec Annie Regon, professeure d'histoire de l'art à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et chroniqueuse à Canal Académie.
Alors Hubertine, puisque nous allons l'appeler Hubertine tout court, c'est un prénom qui n'est pas très courant. Donc elle est née à Saint-Priest en Murat, tout près de Montmarault, le 10 avril 1848, dans la propriété de ses parents qui s'appelle Tilly. Tilly, ce qui veut dire probablement un lieu où on rencontre des tilleuls. Son père, Jean-Baptiste Auclert, était alors propriétaire et sa mère, Catherine Joséphine Chanudet devait être originaire de Montmarault, en jugé par le nombre élevé de patronymes Chanudet que l'on rencontre à Montmarault. Grâce à Gilbert Martin, que j'ai utilisé et que je pense tous les historiens présents dans la salle connaissent parce que c'est un historien extrêmement sérieux, j'ai même rencontré dans une thèse américaine les louanges de l'ouvrage de Gilbert Martin « Choses et gens des pays de Montmarault ». Donc Gilbert Martin nous apprend que les ancêtres paternels d'Hubertine étaient venus à Tilly au début du XVIIIe siècle, alors qu'auparavant ils résidaient dans la paroisse de Saint-Priest, mais à Rongères. Donc Rongères qu'il ne faut pas confondre avec Rongères près de Varennes-sur-Allier, donc c'est un autre lieu dit Rongères. Et là ils étaient fermiers, donc on peut penser que de fermiers ils sont devenus propriétaires, ce qui est une évolution sociale relativement normale et assez fréquente dans cette zone. Parmi les ascendants d'Hubertine, nous rencontrons Gilbert Auclert, qui demande que 100 messes basses soient dites pour le repos de son âme par les révérends capucins de Montluçon ou de Moulins. Alors le choix des capucins n'est sans doute pas neutre, puisque l'ordre des capucins, qui est certainement le plus proche des pauvres et des malades, et des exclus, enfin quoi qu'on ne parle pas d'exclus à ce moment-là, c'est une notion anachronique pour l'époque, mais qui correspond bien sûr à une réalité. Donc le choix des capucins est probablement significatif d'une volonté de se rapprocher des populations les plus pauvres. Dans le registre paroissial de 1738, Pierre Auclert, fils de Jean Auclert, est cité, ainsi que ses trois enfants, Pierre, Benoît et Jean, donc une famille que l'on connaît. Jean-Baptiste Auclert, le père d'Hubertine, était né en 1803, puisqu'il est dit âgé de 33 ans en 1836. Il est nommé maire de, je dis bien nommé et non pas élu, à cette époque, il est nommé maire de Saint-Priest le 4 août 1860, mais il n'exerce pas longtemps cette fonction. Quant à la mère d'Hubertine, Catherine Joséphine Chanudet, eh bien, on peut penser qu'elle était certainement une personne extrêmement charitable. En ce temps-là, on parlait de charité, maintenant on parle plutôt de solidarité. Elle a certainement donné à sa descendance le sens du partage avec les plus pauvres, avec les personnes rejetées de la société. D'autres membres de la famille d'Hubertine nous sont connus, ainsi ses deux frères, Théophile Pierre-Joseph, né le 24 février 1836, donc son aîné, ainsi qu'Alexandre Prosper, né le 8 mars 1840. Théophile succède à son père au poste de maire en 1861, et sa signature, que j'ai rencontrée à maintes reprises donc, dans les archives municipales, annonce une personne énergique, enfin déjà une personne sachant lire et écrire, forcément, et une personne vraiment, enfin, on sent très bien, sans faire de la graphologie, que c'était quelqu'un qui devait savoir ce qu'il voulait. On lui doit de nombreux travaux dans la commune, en particulier l'agrandissement de l'église en 1864-66, ainsi que la construction de la mairie-école. Et parmi les descendants de la famille Auclair, on signale une famille de brasseurs qui a opéré à Montmarault, mais qui n'a plus de descendants actuellement, enfin, tout au moins que j'ai pu rencontrer. Hubertine donc est née dans la demeure de ses parents, à Tilly. Alors, c'est un hameau qui est complètement isolé, au sud-ouest du territoire de la commune de Saint-Priest-en-Murat, qui figure sur la carte de Cassini, donc qui était relativement ancien. En effet, c'était autrefois le centre d'un fief, avec un château probablement disparu, puisque les tours s'étaient écroulées déjà en 1739. Et c'est très intéressant de voir le site de ce monument, parce que c'est vraiment typiquement un éperon barré. Donc un éperon barré, ça veut dire un site facilement fortifiable et fortifié à l'époque médiévale. Mais il n'y a plus aucune trace de construction médiévale. Enfin, c'est quand même un site qui se situe entre la vallée de deux petits ruisseaux, le Reuillon et les Brosses. C'est extrêmement pittoresque, c'est très très vert. On est vraiment en pleine campagne. Il y a quelques vestiges de douves, mais ce sont les seuls souvenirs de cette ancienne configuration médiévale. Le monument actuel semble dater dans son ensemble de la première moitié du XIXe siècle. Cependant, il aurait fallu que je mène une véritable enquête archéologique pour déterminer les vestiges d'origine médiévale. Et ce qu'aurait pu connaître Hubertine, je ne l'ai pas fait, car il aurait fallu déranger les propriétaires, ce qui n'est pas dans mes habitudes. L'église paroissiale Saint-Priest, où fut baptisée Hubertine, est une église romane, mais qui a été agrandie vers l'ouest en 1866. C'est une église qui conserve un certain nombre de sculptures du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Peut-être Hubertine les a-t-elle connues. J'ai noté notamment une statue de Sainte-Madeleine, assez belle. J'ai également remarqué les fonts baptismaux, mais qui me semblent avoir été certainement remaniés plus tard. L'école primaire où elle effectua sans doute sa formation primaire a certainement disparu, car la construction de la mairie-école actuelle est l'œuvre de son frère Théophile. Donc on peut penser que Hubertine n'a pas fréquenté cette école dans son enfance. Par contre, je suis allée donc à la recherche de l'établissement secondaire où elle a pu effectuer sa scolarité secondaire. Et alors là, je me suis tournée vers Montluçon, puisque c'est là qu'elle a été en pension. Mais malheureusement, l'établissement a disparu. Il a disparu physiquement, mais il a quand même laissé des traces dans la mémoire locale. Et je vois des Montluçonnais dans l'assistance qui comprendront que je veux parler de l'ancien couvent des Dames de Saint-Maur, qui est devenu le lycée Madame de Staël aujourd'hui. Lycée, donc, autrefois, donc, couvent, puisque... L'enseignement pour filles à Montluçon a connu les péripéties qu'ont connues les enseignements pour filles dans de nombreuses villes. Avant la Révolution, il y avait des Ursulines qui, comme tout toujours, avaient à la fois leur pension pour les demoiselles, entre guillemets, et l'externat pour les petites filles de la ville. Bon, les Ursulines sont parties pendant la Révolution, mais il est resté quand même... La base du bâtiment de la mairie actuelle se trouve pratiquement à l'emplacement du couvent des Ursulines de Montluçon. Donc pas d'Ursulines. Il y a une longue période pendant laquelle à Montluçon il n'y a plus d'enseignement pour les jeunes filles. Et c'est seulement en 1826 que la douairière de Ligondès et sa fille vicomtesse d'Orsay décident de solliciter de Paris la venue des religieuses de l'enfant Jésus. Ces religieuses de l'enfant Jésus sont des religieuses qui sont vouées uniquement à l'enseignement des filles. Cet établissement a été fondé par un récollet, le père Nicolas Barré, qui donc a fondé cette première maison à Saint-Maur-des-Fossés à côté de Paris Et c'est pourquoi ces religieuses portent le nom de Dame de Saint-Maur. Alors, la première implantation se trouve à l'emplacement de la sous-préfecture actuelle, mais très vite, Montluçon est une ville qui s'industrialise, dont la population augmente. Et en 1852, les Dames de Saint-Maur acquièrent de la famille Leguet la propriété dite de la Pacaudière ou de la Picaudière, au bord de la Maron. Et elles restent là jusqu'à leur départ forcé en 1904. C'est dans la place, donc, au lycée, qui est devenu le lycée Madame de Staël. La chapelle est construite par Lassus, un architecte que nous connaissons bien, donc Jean-Baptiste Lassus, 1807-1857, qui est le disciple préféré de Viollet-le-Duc et que nous connaissons pour avoir construit l'église du Sacré-Cœur de Moulins et l'église Saint-Saturnin de Cussé. Bon, malheureusement, cette chapelle a complètement disparu. L'installation des religieuses de Saint-Maur dans les nouveaux locaux a lieu en 1858. Hubertine a alors 10 ans. Et il est possible qu'elle ait connu le déménagement depuis donc l'ancienne, enfin ce qui est devenu la sous-préfecture, jusqu'à ce couvent donc des Dames de Saint-Maur. La nature de la formation disposée par ces Dames de Saint-Maur était-elle propre à susciter une vocation féministe ? Il est difficile de répondre à cette question en l'absence d'une étude approfondie des programmes et des personnalités des enseignantes. Le chanoine Clément insiste lorsqu'il évoque l'action de ces religieuses sur le fait qu'elles devaient former les futures mères de famille plutôt que des élèves appelés à de longues études. Et nous savons par ailleurs que la religion d'Hubertine est complexe, son rapport à la religion est complexe. Après avoir essuyé un échec pour devenir religieuse, elle devient franchement anticléricale, ce qui fait écrire à Mona Ouzouf. Le constant procès qu'elle fera au christianisme et qu'il a oublié en chemin l'annonce égalitaire qu'il avait faite au monde. Page 205 de son ouvrage. Toute sa vie, Hubertine sera vêtue de noir, et son comportement militant rappelle celui des néophytes voulant obtenir à tout prix les conversions. En fait, les origines rurales d'Hubertine ne transparaissent guère dans ses ouvrages. Le centralisme parisien de la fin du XIXe siècle semble broyer toute appartenance régionale. À peine ai-je remarqué un passage qui pourrait passer pour un souvenir vécu dans son village natal. Lorsqu'elle développe son argumentation en faveur du vote des femmes, elle écrit « Dans le vote des femmes », un petit ouvrage que je tiens à vos dispositions, que j'ai apporté ici. Voilà, je cite Hubertine. « La femme qui possède les trois quarts du territoire d'une commune, ce qui n'était pas tout à fait son cas, mais presque après la mort de son père. » Donc, la femme qui possède les trois quarts du territoire d'une commune n'est pas devant l'urne l'égale de son domestique mâle. Le domestique vote, la propriétaire qui l'emploie ne vote pas. Et cette évocation a eu pour moi un parfum de vécu qui évoque l'atmosphère d'un dimanche d'élection dans une petite mairie de campagne où tous les habitants se connaissent.
Vous venez d'entendre Annie Regon, professeure d'histoire de l'art à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, qui vient de dresser la vie d'Hubertine Auclert à l'époque où elle vivait dans l'Allier. Retrouvons sans plus tarder notre féministe, célèbre pour ses coups d'éclat à Paris, notamment en refusant de payer ses impôts, avec Jean Aubat, correspondant de l'Institut.
Il faut reconnaître qu'Hubertine Auclert est plus connue sans doute à l'étranger qu'en France. Nous disions l'an dernier que une seule thèse existait sur Charles-Louis-Philippe, elle venait d'Angleterre et c'était David Rowe qui l'a écrite. Et pour Hubertine Auclert, il faut aller aux États-Unis pour trouver l'excellent livre de Stephen House, Hubertine Auclert, la suffragette française. Madame Regon citait tout à l'heure le très beau livre de Mona Ouzouf qui s'appelle Paroles de femme. Et dans ce livre, à la fois érudit et sensible, Mona Ouzouf fait entendre des voix de femmes, des femmes qui, réfléchissant à la destinée féminine, ont su faire preuve d'originalité et d'audace. Et là, lorsque j'ai présenté ce livre à mes amis, ils connaissaient tous ces femmes. C'était Madame de Staël, c'était George Sand, c'était Colette, c'était Simone de Beauvoir. Mais lorsqu'on en arrivait à Hubertine, personne ne la connaissait. Un seul la connaissait. Un seul de mes amis l'a connue parce qu'il est spécialiste de Guy de Maupassant. Et nous le verrons, Guy de Maupassant a cité Hubertine. Autrement, il faut aller aux États-Unis ou venir à Moulins pour connaître Hubertine. Mais comme le disait M. Cluzel, maintenant avec Canal Académie, tout le monde va la connaître. C'est que les femmes, en général, comme le remarque Michel Perrault, spécialiste de l'histoire des femmes, elles sont restées confinées à l'intérieur des maisons, elles n'ont pas paru dans l'espace public, sauf par le livre, c'est le cas de Madame de Staël, de Georges Sand, de Colette. Alors pourquoi Hubertine Auclert est-elle là? Parce qu'elle est le féminisme même, et notez que le titre du livre américain de Stephen House, c'est Hubertine Auclert, la suffragette française. Ce n'est pas une suffragette française, c'est la suffragette française. Vous possédez la seule, la vraie. Alors, on peut se demander comment Hubertine, cette modeste enfant de l'Allier dont on vient de nous parler, qui est née le 10 avril 48, cinquième de 7 enfants, orpheline de père à 9 ans, comment a-t-elle pu entrer dans le cercle étroit des femmes célèbres? La réponse est simple, c'est la féminine, la suffragette française. Elle a été une des premières, des plus actives, des plus originales, féministes. Et féminisme, féministe, c'est peut-être, c'est sans doute elle-même, c'est sans doute elle qui a inventé le mot. C'est ce que nous dit le Robert de la Culture qui vient de paraître. Alors une époque, une question se pose. À une époque où les femmes restaient normalement au foyer, comment Hubertine a-t-elle pu ainsi embrasser la cause du féminisme de ce hameau de Tilly dont vient de nous parler Madame Regon? Mona Ozouf s'est interrogée à juste titre sur le milieu familial dont vient de nous parler Madame Regon. La mère d'Hubertine, on nous l'a dit, c'était une femme extrêmement ouverte, généreuse envers les enfants pauvres, accueillante aux filles-mères, ce qui n'était pas commun à l'époque. Le père était un républicain convaincu qui avait été maire sous la Seconde République et qui avait refusé de servir l'Empire autoritaire. Nous l'avons retrouvé comme maire plus tard. Hubertine a baigné dans un milieu où l'on avait foi dans les Lumières et où la vie ne prenait tout son sens que dans la fidélité aux grands principes républicains, liberté, égalité, fraternité. N'oublions pas enfin l'énergie farouche qui anime certaines femmes. Et là, on pourrait citer bien des textes. Ce qui a déclenché son action, nous dit-elle, c'est le premier grand meeting pour l'émancipation des femmes qui a eu lieu à Paris en 1872 et dont l'écho est parvenu jusque dans les profondeurs de l'Allier. Justement, Hubertine traverse alors une crise. Ses parents sont morts. Elle a recueilli une part d'héritage qui lui assure l'indépendance matérielle. Elle a envisagé d'entrer au couvent, comme nous le disait tout à l'heure Madame Regon, mais ce projet a échoué et cet échec, comme il arrive, a fait d'elle une anticléricale déterminée. Son frère aîné lui fait comprendre qu'il préfère vivre seul avec sa femme plutôt que de la voir au foyer avec eux. Elle décide alors de partir pour Paris. Elle ne reviendra plus. Dès son arrivée, elle prend contact avec les dirigeants de l'Association pour les droits des femmes, Maria de Rheims et Léon Richer. Il lui confie les fonctions de bibliothécaire. Dès lors, pendant plus de 40 ans, de 1872 à sa mort en 1914, sa vie ne sera qu'un seul combat pour une seule cause. Et il ne restera plus qu'aller d'appartement en appartement. Elle mène une vie très austère, de 2 rue des Deux Gares au 151 rue de la Roquette. À chaque fois, elle installe dans le salon un buste de la République sur la cheminée et un portrait de Georges Sand au mur. Et ce salon est le lieu où elle réunit ses camarades de combat, car c'est une militante, un soldat du féminisme. Ce combat pourrait paraître monotone si l'on aurait resté toujours sensible à l'ardeur et à la générosité de cette combattante. Pour notre bonheur et pour le sien, cette lutte connaîtra tout de même une brève éclaircie. Elle travaille dans son groupe féministe avec un homme. Il y a un homme, Antonin Lévrier. Un jour, il se déclare qu'il s'aime. Il n'avait pas encore osé se le dire. Et en 1887, il se déclare leur amour et se marie. On va plaisanter, cette féministe qui se marie, ça paraît drôle. Et ils vont connaître, Hubertine va connaître 3 années de bonheur. Lévrier est nommé juge de paix en Algérie, ils partent tous les deux pour l'Algérie. Ce sont 5 merveilleuses années. Un amour partagé, un pays d'une éclatante et émouvante bonté. Elle découvre les problèmes algériens, la polygamie, les déficiences de l'instruction des femmes. Elle examine tout dans une espèce d'allégresse. Lévrier meurt 5 ans après, en 1892. Il ne reste plus qu'à rejoindre Paris et elle reprend cette lutte interrompue pour 5 années, pendant 40 ans. Cette lutte est devenue plus difficile encore. En son absence, elle avait confié son journal à une collaboratrice, Marie Martin. Celle-ci l'a trahi, a fondé son propre journal. Hubertine est amère. Nous vivons pour l'idée. Elles vivent de l'idée. N'ayant plus de journal à elle, pendant plus de 20 ans, elle écrit où elle peut. Elle écrit dans les journaux qui veulent bien l'accueillir. En 1910, elle se présente illégalement aux élections législatives. Aux élections de 1914, quelques mois avant sa mort, elle placarde des affiches. Jusqu'au bout, elle aura lutté pour que la femme soit élevée à la dignité de citoyenne. Qu'est-ce qui fait l'originalité de cette femme parmi les féministes, d'ailleurs peu nombreuses à l'époque? C'est que son action inlassable, généreuse, est habitée par une conviction profonde. L'essentiel est d'obtenir pour les femmes le droit de vote. Elle nous le dit elle-même, après avoir pendant quelques années beaucoup lu, entendu, observé, réfléchi, j'ai compris la nécessité de ressusciter le programme des femmes de la Révolution et d'une partie de celle de 48, en faisant, contrairement à Léon Richer et Maria de Rheim, découler nos droits civils de nos droits politiques. Elle veut que l'essentiel, ce soit les droits politiques. Elle se veut l'héritière des hommes de la Révolution, de Condorcet et d'Olympe de Gouges. On peut être surpris de ce combat de toute une vie pour le suffrage universel. Le suffrage universel a-t-il une telle valeur? Alors là, j'ai pensé à Peggy, aux pages que Peggy écrit en 1910, et où il dit « Des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs et je dirais des saints. Et quand je dis des saints, je sais ce que peut-être que je dis. Des hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement. Des hommes ont souffert, des hommes sont morts. Tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles aujourd'hui ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ces élections sont dérisoires, mais il y a eu un temps héroïque, où les malades et les mourants se faisaient porter dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Déposer son bulletin dans l'urne, cette expression vous paraît aujourd'hui du dernier grotesque, elle a été préparée par un siècle d'héroïsme. Peggy dit toujours « des hommes ». Alors, et il ne le dit au pensable, pas au sens général, hommes et femmes, en effet c'est des hommes. En parlant ainsi, Peggy ne pense qu'au suffrage des hommes, il n'en a jamais envisagé que sa mère, la rempailleuse de chaises pour laquelle il a autant d'amour que d'admiration, puisse aller voter. Et pour Hubertine, le vote des femmes est la condition indispensable à la solution de tous les problèmes. Monsieur Cluzel a eu pour moi une formule très forte lorsqu'il m'a dit que Hubertine était, pour le vote des femmes, l'équivalent de ce qu'était Christophe Colomb pour la découverte de l'Amérique. Et je pense à saint Augustin qui affirmait « Timeo hominem unius libri », je crains l'homme d'un seul livre. Eh bien, Hubertine, c'est la femme d'une seule idée. Elle est comme Caton l'Ancien, qui déclarait toujours qu'il fallait Carthago dès l'Inde Est, il faut détruire Carthage. Eh bien, elle répète tout au long de sa vie, la femme doit voter. Par exemple, « Pourquoi la femme est-elle scandaleusement sacrifiée ?» demande-t-elle. Elle répond « Parce qu'elle ne vote pas ». Lorsqu'elle, en 1881, elle fonde un journal, elle l'appelle la citoyenne et elle précise « Les femmes millionnaires sont soumises aux mêmes lois tyranniques que les femmes pauvres. Toutes les femmes sont intéressées à prendre le pouvoir d'abroger les lois qui les infériorisent et les asservissent. » Le ton même peut devenir plus violent. « Une chambre d'hommes dont les 3/4 des membres se sont exaucés par leur mariage ne réformera jamais la loi » qui enjoint aux maris d'empocher comme de vulgaires alphonses la dot ou le salaire de leur femme. Et elle va même plus loin, elle nous paraît bien en avance sur son temps lorsqu'elle écrit, il faut que les femmes aient, en plus du droit de vote, la moitié des sièges à la Chambre. Vous voyez combien elle est en avance. Elle pense que la révolution n'est pas la solution, car si elle opère une nouvelle répartition des richesses, ce sera au profit des hommes seuls. Les socialistes, dit-elle, connaissent bien cette puissance magique du vote, puisqu'ils font l'assaut des conseils municipaux et de la Chambre des députés. Mais ce vote, ils le réservent aux hommes. Hubertine invente même un nouveau mot, les gunéphages, ceux qui mangent les femmes. Eh bien, voilà les hommes, ce sont des gunéphages, et il faut que le vote des femmes substitue au monde où nous vivons un milieu harmonique, et elle ne peut que répéter inlassablement, aussi longtemps que les femmes seront absentes de la législature, malheur à elles, elles seront sacrifiées. Cet attachement aux grands principes se concilie pour elle avec une lutte constante pour faire respecter les droits qui doivent améliorer la condition des femmes. Pédagogue, elle invite les mères à élever leurs filles, non pas dans l'obéissance passive, mais à les habituer dès leur jeune âge à avoir le sentiment de leur responsabilité. Il est essentiel de développer l'instruction des femmes. La subvention inscrite au budget pour les dépenses des lycées et collèges de garçons est infiniment plus forte que celle pour les écoles de jeunes filles. Et comme le disait M. Cluzet, l'ironie, dans le programme des écoles normales de jeunes filles figure la nécessité du suffrage universel, qui évidemment est le suffrage des hommes. Dans la vie courante, elle conseille aux femmes de faire tout ce qui est encore possible actuellement, qu'elles sachent que le régime de la séparation des biens, tout imparfait qu'il soit, donne à la femme le droit de toucher ses revenus et inspire à l'homme un respect salutaire. Aucun détail ne doit être négligé. Pourquoi les femmes doivent-elles prendre le nom de leur mari? Et que signifie cette ridicule distinction entre madame et mademoiselle? Vous voyez comment elle est vraiment en avance, Hubertine. Et elle ajoute, l'émancipation par le langage ne doit pas être dédaignée. On ne sait pas si l'on doit dire une témoin, une électeur ou une électrice, une avocat ou une avocate. L'Académie française doit trancher ses difficultés. Et il ne s'agit pas de créer une Académie française de femmes, dit-elle, mais c'est les femmes qui doivent entrer à l'Académie. C'est fait. Pour faire triompher ses idées, de quels moyens dispose Hubertine? Certes, elle en a peu, mais avec de l'imagination et du courage, rien n'est jamais désespéré. Les pétitions, elle lance de tous côtés des pétitions. Pétitions pour le vote des célibataires. Ça peut paraître paradoxal, mais il était dit que si les femmes ne votaient pas, c'est parce que le mari, le chef de famille, votait pour elles. Alors les célibataires, qu'est-ce qui vote pour elles? Donc, pétition pour le vote des célibataires, qui recueille un grand nombre de signatures. Et, comme le disait M. Cluzel, la pétition pour les sièges. Qu'est-ce que c'est pour la loi des sièges? Qu'est-ce que c'est? Elle lutte contre la perpendicularité, contre le fait que les vendeuses dans les magasins restent des journées debout sans jamais être assises. Elle fait une pétition qui recueille plus de 400 signatures pour lutter contre cette perpendicularité. Et elle obtient finalement que les femmes disposent de certains moments pour se reposer. Elle écrit au ministre du Commerce, M. Mirand, au ministre du Travail, M. Viviani, pour faire valoir le droit à la retraite pour les ménagères. Quand M. Briand adresse aux procureurs généraux une circulaire pour les inviter à faire figurer dans les jurys les citoyens exerçant des professions manuelles, Hubertine lui fait parvenir une lettre dans laquelle elle réclame que les femmes fassent elles aussi partie des jurys. Et chez elle, elle reçoit un certain nombre d'adhérents. Au cours d'une des réunions, Hubertine propose des timbres à 65 centimes le cent sur lequel les hommes seront représentés, un homme et une femme, devant une urne. Ces timbres, grâce aux instituteurs et aux institutrices, auraient un grand succès. Au service de l'appel de la cause, on fait appel à Jeanne d'Arc. Elles vont se recueillir devant le monument consacré à Jeanne. Elle publie des articles dans tous les journaux qu'elle peut. Et puis, comme le disait M. Cluzel, il faut de temps en temps frapper des grands coups. En 1880, au moment où le maire célèbre un mariage dans la mairie du 20e, Hubertine intervient, fait un discours véhément où elle dénonce ces lois matrimoniales qui font de la femme une esclave. Elle est évidemment expulsée et on lui interdit l'accès de toutes les mairies. Elle récidive près de 20 ans plus tard, en 1904, en tentant de brûler le code civil. La police s'en mêle, elle ne réussit qu'à déchirer quelques pages. En 1880, comme le signalait M. Cluzel, quand elle reçoit l'avis relatif à ses contributions, elle écrit au préfet de la Seine pour lui signifier que si elle n'est pas considérée comme citoyenne pour voter, elle ne l'est pas davantage pour payer ses impôts. Le Conseil d'État n'ayant pas été sensible à ses arguments, les huissiers se présentent au domicile d'Hubertine, mettent les scellés sur ses meubles, mais lui en laissent la garde. Estimant que l'opinion était saisie, elle accepta finalement de payer, comme tout le monde. En 1908, au moment des élections municipales, elle s'empare d'une urne électorale à la mairie du 9e, la jette à terre en criant que ces urnes réservées aux hommes sont illégales. Elle est traduite devant la 9e chambre correctionnelle. Elle dit au juge que c'est à regret qu'elle a accompli l'acte qui les mène devant eux, car elle est très ennemie de la violence. Mais c'est en vain que pendant bien des années, elle a réclamé au pouvoir public les droits politiques dont sont privés 20 millions de femmes. Le substitut lui-même réclame l'indulgence des juges sous peine de disproportion et Hubertine n'est condamnée qu'à 16 francs d'amende avec sursis aux applaudissements des femmes. En 1910, après avoir beaucoup hésité, Hubertine se présente illégalement aux élections législatives dans la première circonscription du 11e arrondissement et malgré cette illégalité, elle obtient tout de même 590 voix sur 10 000 votants. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Hubertine, avec cette violence à laquelle elle se croit obligée, reste une femme très douce, d'une grande bonté. Elle me fait penser parfois à une dame patronesse lorsqu'elle écrit dans son livre Le Secrétariat des Femmes, dans son le journal Le Secrétariat des Femmes, que sont sa société en même temps que l'ambulance morale où les désespérés se retrempent et se réconfortent, et la maison où les femmes sont chez elles et prennent, en se liant, une sorte d'assurance mutuelle contre la cruelle destinée. De tant d'efforts accomplis tout au long d'une vie, quels ont été les résultats? Eh bien, elle a eu la satisfaction de voir se réaliser quelques-unes des réformes qu'elle avait revendiquées. Ainsi, nous l'avons dit, en 1900 a été votée la loi des sièges qui oblige les propriétaires de permettre aux vendeuses de s'asseoir à certains moments. Et comme le demandait M. Cluzel, parmi ces femmes qui peuvent enfin prendre quelques moments de repos, combien savent qu'elles le doivent à Hubertine? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En 1907, comme l'avait réclamé Hubertine, les femmes obtinrent d'être électrices pour nommer les conseils prud'hommes, les conseillers prud'hommes, et en 1908 sont éligibles à ces conseils. En 1907, le Conseil général de la Seine admit les femmes à les lire. Les écoles normales d'institutrices, nous l'avons dit, ont été créées. En 1883 est votée la loi autorisant le divorce. Mais la grande réforme, celle qu'Hubertine avait appelée de toute sa foi et de toutes ses forces, la loi instituant le droit de vote pour les élections des députés au Parlement, elle ne l'a pas vue. La France, vous le savez, a été un des derniers pays à accorder ce suffrage par l'ordonnance d'Alger en avril 1944, après la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Turquie ou la catholique Espagne. Hubertine aurait été déçue sans être vraiment surprise. Elle connaissait bien les obstacles qui s'opposait au vote, la force de conservatisme. La France, disait-elle, est le pays le plus routinier du monde. Et elle ajoutait, les radicaux ont peur de nous. C'est en effet les radicaux du Sénat qui ont longtemps empêché le vote des femmes. Dès 1919, la Chambre des députés, par 329 voix contre 95, avait adopté une proposition de loi instituant le vote des femmes. Et 5 fois, elle avait confirmé son vote. Mais à chaque fois, le Sénat avait fait opposition. On imagine l'indignation d'Hubertine si elle avait entendu un sénateur radical déclarer à la séance du 23 juin 1932 « Pour donner satisfaction à une minorité d'agitatrices, on va compromettre peut-être les destinées du pays ». Et un autre, du même parti, dans la séance du 5 juillet 1932, nous avons remonté d'autres courants que le féminisme. Nous avons remonté le courant du boulangisme, le courant du nationalisme, et toutes les fois que la République a été en péril, c'est le Sénat qui l'a sauvée. » Ces sénateurs ne cachaient pas, ces sénateurs radicaux, ne cachaient pas d'ailleurs les raisons de leur détermination. En voici un qui déclarait « Les électeurs catholiques sont peut-être des enfants à genoux quand il s'agit du prêtre servant la religion, mais ils sont assez souvent des citoyens debout quand ils exercent leurs droits politiques. Pour les femmes, vous le savez bien, il en va tout autrement. Même quand elles sont assez peu catholiques, elles subissent l'influence du prêtre catholique. » La voix de ces sénateurs nous paraît bien lointaine, alors que celle d'Hubertine reste présente pour nous. Avant de quitter Hubertine, il serait sans doute intéressant de nous demander comment elle apparaissait à ses contemporains. Nous ne sommes pas surpris du silence qu'ont observé à cet égard les femmes, mis à part les rares féministes. Pour les hommes, nous sommes dans un siècle où certains peuvent faire preuve de mépris envers les femmes et parfois d'une véritable grossièreté, comme le déclare Hubertine à propos de Rochefort. Ils sont heureusement l'exception. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui, tout en étant pleins de courtoisie pour les femmes, ne peuvent se défendre d'une légère ironie envers ces féministes. Tel est le cas de Maupassant, lorsque, dans une chronique du Gaulois, émettant l'hypothèse d'une impossible continuité de l'amour dans le mariage, il conclut ainsi son article « Si j'osais, je demanderais l'opinion d'Hubertine Auclair ». Quelques rares contemporains ont senti la noblesse de cette femme. Un peu ridicule peut-être, mais très digne, avec sa robe noire et son grand chapeau, mais bizarre quand elle brandit des banderoles. Un journaliste écrit en 1875 dans La France, « Mademoiselle Hubertine Auclair mérite qu'on la discute sérieusement avec son intelligence et son cœur. Elle a environ 27 ans. Ses traits ont une grande expression d'intelligence et d'énergie. Son éloquence est naturelle, son geste sobre. » En 1880, quand Hubertine refuse de payer ses impôts sans être suivie par ses amis, Jean Frollo intitule son article du Petit Parisien « Seul contre tous ». Et il conclut « Ce qu'elle fait, même en se trompant, j'entends en se trompant d'heure, suffit à nous édifier sur la fermeté de son caractère et la sincérité de ses convictions. Je salue cette âme forte. » Pour nous, Hubertine est à la fois une féministe d'une véritable originalité et une femme d'une réelle grandeur d'âme. Son originalité, Mona Ozouf, que nous avons citée, la caractérise ainsi dans une lettre qu'elle nous a adressée. « Si j'ai choisi Hubertine plutôt que d'autres militantes féministes, Claire Desmar ou Jeanne Dervin, c'est que le livre de mon ami Pierre Rosanvallon sur le sacre du citoyen avait mis en évidence le fait que le retard des femmes françaises à accéder au droit de vote avait une raison particulière à la France, la réticence des femmes elles-mêmes à se penser comme une communauté et leur attachement à l'universalisme. Or, Hubertine illustrait merveilleusement l'hésitation du mouvement féminin entre ces deux tentations. Pour sa grandeur d'âme, j'aimerais revenir à Peggy, qui dit « L'intérêt, la question, l'essentiel est que dans chaque ordre, dans chaque système, la mystique ne soit pas dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. » Hubertine Auclair a été une mystique du féminisme.
Vous venez d'entendre la communication de Jean Aubat sur la féministe Hubertine Auclair, la première suffragette française admiratrice de Louise Michel. Sa parole sur le vote des femmes sera entendue, mais près de 40 ans plus tard, en 1944. Notre émission en colloque se termine ici. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.